La revue de presse sur Radio Classique à 8h30. Bonjour Marc Tédé.
Bonjour François, bonjour à tous.
On commence avec une réforme à haut risque pour le gouvernement.
C'est ce qu'affirme le Figaro à sa une à propos de la réforme de l'assurance chômage, alors que syndicats et patronats se retrouvent aujourd'hui pour une nouvelle séance de négociation sur l'emploi des seniors. Objectif, parvenir à un taux d'emploi chez les 60-64 ans de 65% en 2030 contre 33% en 2022. Les partenaires sociaux jouent ici leur va-tout, affirme cette fois les Échos.
Oui, car l'enjeu est plus large.
Un échec des discussions entre patronat et syndicat permettrait au gouvernement de garder la main sur la gestion de l'assurance chômage, alors que le Premier ministre Gabriel Attal a déjà annoncé un durcissement du régime, indique le Figaro, qui poursuit, même si le chef du gouvernement évoque une réforme d'activité et de prospérité et pas une réforme d'économie, ce tour de vis a ouvert une énième fracture dans la majorité macroniste.
La cohésion de la majorité qui pourrait être à nouveau mise à rude épreuve par une coalition avec les Républicains.
Un scénario envisagé par le chef de l'État, nous dit ce matin l'Opinion, pour contrer la menace d'une motion de censure brandie par Éric Ciotti, le patron des Républicains, sur fond de dérapage des comptes publics. Le quotidien affirme que cette fois, la menace est sérieuse. L'entourage d'Emmanuel Macron rappelle que le chef de l'État n'a jamais fermé la porte à un rapprochement avec LR. Il a même tendu la main à plusieurs reprises. Sous couvert d'anonymat, ce proche du président de la République affirme avec des mots que l'on imagine aisément dans sa propre bouche. S'ils veulent venir, qu'ils viennent. Nous n'avons jamais renoncé à cet idéal de dépassement.
Et ce qu'ils viennent, ça nous renvoie effectivement à l'été 2018, l'affaire Benalla. L'exécutif est donc sur la corde raide et pourtant, Marc Tédé, qui sait mettre sur pause la musique budgétaire? Une question posée par les Échos.
Et pour l'éditorialiste du journal Cécile Cornudet, Emmanuel Macron presse en effet son équipe de mettre en sourdine cette musique budgétaire qui s'entend mal en période électorale et privilégier plutôt une hausse du volume sur les autres actions. Selon notre consoeur, l'exécutif tente de démontrer qu'il n'y a pas que les économies budgétaires dans la vie politique, comme en témoignent les mesures concrètes annoncées samedi par le Premier ministre sur la santé, sujet d'inquiétude numéro un des Français. Parmi elles, des gardes pour les infirmiers, les dentistes et les sages-femmes, des séances de psy mieux remboursées ou encore des dérogations pour consulter un spécialiste sans passer par son généraliste.
À l'étranger, à 2 mois des élections européennes, le crime organisé italien s'invite dans les débats.
À lire dans l'Opinion qui évoque l'arrestation de 22 personnes jeudi dernier en Italie, la saisie de villas, de voitures de luxe et de montres Rolex pour une valeur totale de 600 millions d'euros. Opération conduite par la police italienne et le parquet européen dans le cadre d'une enquête sur des détournements présumés de fonds du plan de relance européen post-Covid. L'Italie est la première bénéficiaire de ce plan et représente 3/4 des soupçons de fraude, un symbole désastreux pour l'image du plan de relance européen, souligne le journal, au moment même où le président français cherche à convaincre ses partenaires de lancer un nouvel emprunt commun pour financer cette fois la défense. Pas du plus bel effet pour la Commission, regrette un diplomate européen.
Et justement, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, candidate à un nouveau mandat, a tenu hier son premier meeting.
L'occasion pour elle de dénoncer les amis de Poutine en Europe, rapporte l'Opinion, l'AFD en Allemagne, le Rassemblement national en France ou Confédération en Pologne.
Le Figaro consacre un article à un autre ami de Vladimir Poutine, l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder.
L'ancien dirigeant a eu 80 ans hier et en Allemagne. Féliciter les élus à l'occasion de leur anniversaire est un devoir civique, nous apprend le quotidien. Je ne le savais pas, mais Olaf Scholz, son lointain successeur, s'est abstenu de le féliciter, celui qui ne renie rien de son amitié tarifée avec le maître du Kremlin. Cet outsider de la politique, salarié par le géant russe Gazprom, est devenu persona non grata parmi les siens. Récemment, l'église de Düsseldorf, le fief politique de Gerhard Schröder, a refusé un de ses dons pour rénover un vitrail. Le pasteur a reversé la somme directement à l'Ukraine.
Donc visiblement, on ne va pas dire zum Geburtstag, viel Glück, Gerhard Schröder.
Sans doute pas.
Marc Tédé, toujours à l'étranger, vos journaux reviennent sur 6 mois de guerre à Gaza.
Dans les Échos, le correspondant du journal en Israël souligne que malgré des bombardements dévastateurs et une invasion terrestre à Gaza, l'armée israélienne n'est pas parvenue à la victoire totale que fait miroiter le Premier ministre. L'État hébreu a perdu son image de victime pour se voir désormais accusé d'être responsable d'une catastrophe humanitaire et de milliers de morts morts parmi les Palestiniens de la bande de Gaza. Ce que résume avec amertume un diplomate israélien dans une comparaison avec un conflit plus proche de nous. Au début, nous étions les Ukrainiens. Maintenant, nous passons pour les Russes.
Parallèle intéressant. Et de fait, la rue israélienne gronde à nouveau contre Netanyahou, rapporte La Croix.
Le quotidien catholique fait sa une sur la fin de l'Union sacrée en Israël. Si la population reste unie derrière son armée, ciment de la nation, elle ne l'est plus derrière Benjamin Netanyahou, accusé d'être le principal obstacle à un accord de cessez-le-feu permettant la libération des 133 otages toujours aux mains du Hamas depuis le 7 octobre dernier. Ils étaient plus de 100 000 à défiler dans les rues de Tel Aviv samedi pour dire leur colère et réclamer de nouvelles élections, peut-on lire dans La Croix. Parmi les manifestants, un membre du Forum des familles qui se dit épuisé et qui estime que le Premier ministre et celui de la Défense veulent d'abord attaquer Rafah, éliminer le Hamas et enfin seulement un accord pour les otages. À chaque fois, on pense qu'un accord est proche, mais Benjamin Netanyahou prend les otages en otage.
Marc Tédé, la revue presse de Radio Classique à 8h30 tous les jours cette semaine. Merci Marc. Il est 8h39. Sommes-nous en train d'arriver dans une société de l'ultra-violence avec ces affaires de violence autour et dans des établissements scolaires ces derniers jours et dernières semaines? Luc Ferry est avec nous dans quelques instants pour Esprit Libre.